Vous écoutez Entrepreneur Too, le podcast qui vous fait partir à la rencontre de celles et ceux qui mettent en valeur le jeu vidéo, ses créations, ses créateurs et ses créatrices. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Interplayer 2. Je suis votre hôte Donny Jeep et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Flo qui est la créatrice et autrice sur le blog Little Gamers et qui est aussi chroniqueuse sur le podcast Pod Culture qui, comme son nom l'indique, parle de différents médias culturels. Donc bienvenue à toi Flo.
Mais merci.
Déjà, je suis très content de t'accueillir et comme d'habitude, c'est la nouvelle formule sur le podcast puisque maintenant nous sommes en saison 2. On va faire ce qu'on appelle un petit niveau tutoriel. Donc avant de parler un peu de Little Gamers, de Pod Culture, dans tout ce qui touche vraiment à ton rapport aux jeux vidéo et la façon dont tu en parles et dont tu le mets en valeur, tu pouvais me parler un petit peu déjà, donc qu'est-ce qui t'a amené à être toi aujourd'hui en 2020, en mars 2020, donc soit ton cursus un petit peu, ce que tu fais dans la vie en dehors de parler de jeux vidéo.
Alors, qu'est-ce qui m'a amené à devenir moi ? Alors actuellement, je suis professeur de français au collège et mes élèves sont toujours un peu surpris quand je commence à leur faire analyser une image de Kratos. Ils remarquent jamais quand je mets mon t-shirt Final Fantasy, mais c'est pas leur génération. Mais en tout cas, j'ai toujours écrit, j'ai quasiment toujours joué aux jeux vidéo. Donc c'est deux besoins, deux passions chez moi et c'est bien naturel que je les ai alliés pour essayer de faire quelque chose. Après, Little Gamers, c'est mon blog le plus, on va dire, fixe et qui marche le mieux. Mais ça fait au moins 10 ans que je suis sur la blogosphère, que j'ai fait plusieurs tests et j'ai pu affiner mes stratégies. Et c'est pour ça que j'ai réussi à trouver des formules qui me conviennent bien, tant pour le blog que pour le podcast, comme tu as dit.
Bah, Little Gamers, on va dire, ouais, effectivement, c'est pas la nouvelle version, mais comme tu dis, effectivement, tu avais pas mal de blogs avant. Moi, quand je t'ai connu, c'était sur d'autres blogs. On va parler un peu de tout ce cheminement-là. Avant de rentrer là-dessus, donc tu dis que t'es enseignante. Les études, t'as fait quoi en fait? Enseignante en français, c'est ça?
C'est ça.
T'es en collège ou en lycée d'ailleurs?
Je suis en collège. En fait, moi, j'ai passé le CAPES, donc je peux enseigner en second degré, collège comme lycée. Et tu choisis pas forcément. Tu vas où on te dit d'aller en fait.
Donc c'était ton choix et c'est bien tombé ou c'est non, t'as pas eu le choix et tu préférais peut-être plus le lycée?
Pour tout avouer, quand j'étais plus jeune, moi j'aurais préféré être prof de lycée parce que j'adorais ce qu'on faisait en première, en terminale L. Mais finalement, les deux, lycée comme collège, ont des avantages et des inconvénients. De toute manière, je trouve que ça sert à rien d'avoir des a priori sur les élèves de collège ou lycée, ça tombe vraiment de la ville où tu tombes. Et même dans le même établissement, tu peux avoir des classes où tu as des atomes crochus, d'autres classes où ça se passe moins bien. Et finalement, je ne suis pas regardante de cela. J'ai été prof de lycée, puis vu que c'était des élèves qui étaient, me semble-t-il, en première technologique, ils se moquaient un petit peu du français, donc c'était pas non plus l'année de ma vie, tu vois. Et tandis que maintenant, le collège où je suis actuellement, tout n'est pas tout rose, mais il y a quand même pas mal d'élèves avec qui j'ai de très bons rapports, donc je suis plutôt contente d'être en collège finalement. Et tu vois, je suis pas du tout maternelle, je suis même plutôt stricte, et malgré tout, ça se passe bien même avec des élèves plus jeunes. D'ailleurs, je suis toujours surprise que les petits cinquièmes m'aiment bien, parce que des fois je me dis, aïe aïe aïe, mais t'es trop horrible avec eux.
Tu dis, je suis des fois un peu trop stricte et tout. Comment on arrive justement à s'adapter et à gérer par rapport aux différentes classes, donc au niveau de ce qu'on doit leur apprendre? Des fois, j'ai l'impression que par moment, le système voudrait, je ne dis pas les enseignants, mais voudrait qu'on soit trop en français vertical. Genre, tu as vraiment le prof qui sait tout et les élèves. Et des fois, être trop vertical, ça empêche la communication. Tu arrives justement à équilibrer ça pour être à la fois respecté, parce que tu es quand même la figure, on va dire, tutélaire de la classe, mais en même temps, d'avoir une communication en échange qui soit quand même assez fluide aussi avec les élèves.
Je vois ce que tu veux dire. Alors, quand tu es prof, tu as deux choses à gérer. D'une part, le programme. Et là, je peux te dire que je suis très carrée. Dès le début de l'année, je sais où je vais parce que je veux finir le programme avec tout le monde, avec toutes mes classes, même s'il y en a qui avancent plus ou moins lentement. Et tu as le côté pédagogique et humain qui est deux fois plus important. Et là, en fait, au fur et à mesure que tu travailles, tu apprends des astuces, tu connais les trucs. C'est un peu comme des représentations. Même si tu restes un petit peu toi-même, tu es quand même en représentation et puis tu apprends les trucs à faire et à ne pas faire. Et je sais qu'en général, par instinct et parce qu'il vaut mieux, en début d'année, je vais être assez stricte, je vais imposer les règles Et je vais me détendre ensuite, plus tard, si je vois que les élèves ont percuté, comment se passent les choses, si je vois qu'ils travaillent, si je vois qu'ils sont respectueux. Alors là, oui, on peut devenir copains, entre guillemets. Et malgré tout, si je vois qu'ils se sentent un petit peu trop à l'aise, ben, il faut rappeler les règles et tout ça. Et bien sûr que ça va être différent d'une classe à l'autre et qu'il faut toujours s'adapter parce que on est humain, c'est ce que je dis toujours à mes élèves. C'est pour ça que moi, je suis moins partisane du côté vertical. On est humain. Bien sûr qu'il y a des élèves avec qui on va s'entendre, des élèves avec qui on ne va pas s'entendre, mais on est là pour être impartial. De toute manière, bon, j'ai pas eu ce genre de problème, mais c'est vrai que je suis professeur principal et puis des fois, je dois un petit peu gérer. T'as des élèves qui prennent tel prof en, comment dire, en tête de turc pour X raisons, et puis j'essaye de faire l'intermédiaire et de leur expliquer que les profs sont aussi des êtres humains. Alors, ils peuvent se tromper, mais il faut aussi pas non plus les diaboliser, tu vois.
Ouais.
Et c'est vrai que être prof, c'est beaucoup de techniques relationnelles, beaucoup de manières de faire à apprendre. Surtout qu'on est dans une époque, je trouve, où il faut faire hyper attention à ce qu'on dit. Hein, on dit que c'est sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. Je vais certainement pas parler de tout ce qui se passe, mais des fois, j'hallucine un peu quand je vois ce que les profs disent, ce que les élèves disent, ce que les parents disent. Et en plus, des fois, c'est des malentendus ou des choses transformées. Alors moi, je fais attention à ce que je dis et en même temps, j'essaye de rester naturel. Après, j'ai un caractère assez fort. Mes élèves, ils commencent à me connaître et puis voilà, il y a des hauts et des bas, mais en général, ça se passe bien.
Bon, l'avantage, c'est que tu t'ennuies donc jamais et qu'en plus, ça te permet aussi une remise en cause, mais dans le bon sens, en fait, pour progresser en tant que professionnel et que personne aussi.
C'est vrai, c'est vrai. C'est un boulot, si ça se passe mal, tu ressasses à la maison et ça peut vraiment te bouffer. C'est pour ça que tu as beaucoup de profs qui font des dépressions, tout ça. Et en même temps, si ça se passe bien, c'est assez gratifiant. Et sans aller dans les extrémités, dans la vie de tous les jours, eh ben, il faut constamment se remettre en question. De toute façon, moi, j'aime bien me remettre en question. Et même quand je vis mal un truc, je me dis, bah, si tu le prends mal, ça veut dire que tu as quand même quelque chose à te reprocher. Et puis, ça te permet de t'améliorer, tout simplement. Je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui veut tout le temps se surpasser, ce qui n'est pas forcément une qualité, cela soit dit en passant. Il faut s'adapter tout le temps, en fait.
Mais c'est comme tu dis, ça peut être une bonne chose du moment que ça te bouffe pas totalement ce qui peut arriver, comme tu dis.
C'est ça, il faut savoir prendre du recul aussi, hein. C'est pas facile parce que pour les élèves, on n'est que le prof, alors que nous, au contraire, pour nous, c'est un boulot très personnel parce qu'on prépare les cours, on est en contact direct avec les élèves. Donc c'est vrai que, comme je l'ai dit, t'apprends énormément d'année en année en fait.
Bah oui, parce qu'en fait tu dis on prépare les cours, et c'est vrai que les gens souvent se rendent pas compte parce qu'ils disent oui, bah les profs ils vont faire par exemple, je sais pas, 10 heures de cours, sauf qu'en fait mais derrière il y a au moins 15 heures de préparation, et c'est vrai que souvent les gens se rendent pas compte que les professeurs c'est pas que les cours dans la classe, c'est aussi, et c'est pas que corriger des copies, c'est aussi tout préparer en amont. Et c'est un truc que t'aimes ça aussi, préparer en amont les cours justement, trouver de nouvelles techniques pour diffuser le savoir, ce genre de choses là.
Disons que ça me dérange pas. Et il y a les réunions, il y a les conseils de classe, ça me dérange pas. Si ça se passe bien sûr. Et tout ce qui est préparation de cours, préparation de contrôle, j'aime bien m'organiser, j'aime bien faire des plans, donc ça me dérange pas. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est préparer le cours à fond, tout prévoir, tout anticiper. Ça, je n'aime pas le faire. Je sais où je vais, attention, mais j'aime bien improviser. Et puis de toute façon, ça se passera jamais en classe comme tu l'imagines sur le papier. Il y aura toujours des questions que tu n'avais pas prévues et tout ça. Mine de rien, ça me fait gagner un temps précieux de savoir travailler vite et de savoir improviser. Il y a des collègues qui ont besoin de tout préparer, qui passent des heures dessus et je les respecte totalement. Mais moi, c'est plutôt une autre méthode, sans pour autant y aller les mains dans les poches, hein, bien sûr. Et puis voilà, ça me convient. Donc, et mes élèves, bon, pour l'instant, ne se plaignent pas, donc je croise les doigts.
Et justement, pour boucler cette histoire sur le côté éducatif, c'est quelque chose que tu as voulu faire depuis un bon moment. On parle d'éducation, mais en fait, c'est de transmettre du savoir aussi, tout simplement, enfin, de partager.
Oui. Même si ce n'était pas mon seul rêve, dès le collège, je voulais être professeur. Alors, au début, j'étais plutôt portée sur l'histoire-géographie au collège. Mais dès le lycée, j'étais passionnée par le français, par les lettres modernes. Donc, j'ai toujours plus ou moins su où j'allais. C'est vraiment un job fait par vocation et pas par dépit. Et de toute manière, ce n'est plus la planque du tout d'être prof. Hein. Déjà, ça devient compliqué d'avoir un poste fixe. Et puis c'est un métier de passion, parce que, comme je l'ai dit, tu as des choses hyper gratifiantes. Et quand quelque chose se passe mal, c'est aussi extrêmement éprouvant sur le plan personnel.
Oui, bah, de toute façon, il suffit de voir passer souvent, on voit les... Alors moi, je peux que le concevoir et pas le savoir parce que je suis pas enseignant, mais il suffit de voir passer des fois des dossiers, des articles pour se rendre compte qu'effectivement, ça peut être quand même quelque chose qui peut être empoisonnant et pour des raisons qui sont totalement indépendantes des fois hein, des enseignants, hein, malheureusement. C'est plus d'un ordre systémique.
Après, je dis pas ça pour pleurer sur les enseignants, parce qu'en fait, c'est le lot de tous les jobs relationnels où tu es en contact avec les gens, en fait. C'est tout simplement. Hein.
Oui, c'est ça. Mais après, quand tu t'occupes en plus du côté, tu sais, des enfants, t'as ça aussi à gérer. C'est jamais facile. Hein. Parce que quelque part, alors, ça s'appelle l'éducation. Hein, donc, l'éducation, bah, c'est quelque chose, on se rend compte qu'il faudrait qu'il y ait de l'éducation tout le temps à tous les âges, de toute manière, que pas que pour les enfants. Ça, c'est mon avis personnel.
C'est vrai.
Mais donc voilà, forcément, c'est toujours des sujets qui sont encore tabous, presque. Donc comme tu dis, c'est bien aussi de le faire par vocation, et de toute manière, je suppose que ceux qui le font pas par vocation, bah, très vite, après, ils s'en vont, ou enfin voilà, où ça se passe mal, parce qu'il faut la fibre. Hein.
De toute manière, même avec ça, je suis loin d'être parfaite.
Mais comme tu dis, après, c'est une question aussi de, bah, justement, de pas être trop vertical, mais bon, apparemment, c'est pas ce que tu fais, donc bah, après, bah, chacun apprend à se découvrir aussi, de toute manière, ça marche dans les deux sens, hein, la découverte de soi, des autres, donc en tout cas, c'est vrai que ça doit être quelque chose quand même d'assez stimulant. Tu t'ennuies pas, j'ai l'impression.
T'apprends énormément sur toi-même en étant prof, ça c'est clair et net. Moi, j'ai vraiment fait un gros cheminement depuis que je travaille. Après, c'est bête, hein, mais t'as des tas d'œuvres où tu dis où les personnages ils te disent voilà, être prof, finalement, c'est les élèves qui t'apprennent des leçons, mais c'est vrai d'une certaine façon.
Comment t'es venu cette envie de parler un peu justement, de te lancer sur Internet, sur la blogosphère, puisque bah, ça demande aussi un travail, bah, là aussi sur soi, de se lancer, de donner aux autres à lire, à regarder ce dont on parle et comment on en parle.
Alors, j'ai toujours aimé écrire, et ce depuis le collège. Donc quand j'ai découvert la magie d'Internet, j'ai fini par me lancer sur des blogs. C'est vrai que mes premiers blogs étaient plutôt généraliste. Par exemple, je présentais des personnages que j'aimais dans la littérature, ou alors je parlais de films, de séries. Et puis j'ai ressenti le besoin de moins m'éparpiller, de privilégier la qualité à la quantité. Et il m'a semblé naturel de choisir un domaine sur lequel je me concentrais de plus en plus dans mes loisirs, et puis en termes de passion, en termes de recherche et tout. Et c'est le jeu vidéo. Little Gamers, même si des fois j'ai très envie de parler d'autres choses, je reste focalisée sur ma formule qui est un jeudi sur deux, je parle d'un ou de plusieurs jeux auxquels j'ai joué récemment.
Et justement, donc avant d'arriver à Little Gamers, tu dis que tu as eu plusieurs itérations de tes blogs. Justement, ça s'est fait comment ce passage pour arriver à Little Gamers, pour trouver un peu ta bonne formule et justement, après, comment tu as bâti Little Gamers, parce que tu dis que tu publies un jeudi sur deux. Donc, quelle est un peu ta ligne directrice sur Little Gamers dans ta manière de le faire fonctionner et de l'envisager?
En fait, le blog que plusieurs ont connu au tout début, parce qu'il avait duré 5 ans quand même, c'était... j'ai oublié son nom, moi et ma grande mémoire. Mais en tout cas, le problème, c'est que je m'éparpillais. Je parlais de tout ce dont j'avais envie de parler, donc ça devenait un petit peu usant de faire trop d'articles, et puis finalement peut-être moins qualitatif. En plus, il y a des raisons très personnelles qui m'ont incité à devoir changer de blog. Donc j'avais lancé encore un autre blog pour encore continuer à me chercher. Et tout ça, finalement, c'était juste des tests pour trouver la formule qui me convient. Et Little Gamers, donc comme je l'ai dit, je parle que de jeux vidéo pour pas m'éparpiller, pour faire un blog assez propre, tu vois, qui reste dans la même thématique. Cela dit, si j'ai vraiment envie de parler d'autre chose, je vais le faire. C'est pour ça que j'ai parlé de la rencontre que j'ai faite avec un acteur de la Casa des Papel. Donc s'il le faut, je fais une entorse au règlement. De toute façon, personne ne va m'engueuler puisque c'est mon blog. Le fait de faire un article un jeudi sur deux, c'est tout simplement parce que au début, limite, je me disais eh ben, pourquoi je ne ferais pas un article toutes les semaines. Je crois que c'est Benji qui m'a dit ça fera peut-être beaucoup et il avait totalement raison. Je préfère prendre le temps de peaufiner un article et ça sort toutes les deux semaines plutôt que d'en faire un toutes les semaines. Non seulement au moins j'ai le temps de peaufiner le truc, mais en plus, j'aurais jamais eu le temps de jouer à assez de jeux ou alors j'aurais parlé plusieurs fois du même jeu, mais avec des angles moins intéressants. Là, je préfère prendre le temps de trouver un truc intéressant à dire, et puis voilà.
Je rebondis juste, tu disais Benji, donc, qui est connu aussi sur Internet sous le pseudonyme de Mystic Falco. On va reparler de lui parce qu'il est à l'origine de Podculture, mais ça, je pense qu'on va en parler plus tard. Mais aussi, et quand on parle de Little Gamers, tu me diras si je me trompe, mais je ne sais pas pourquoi j'emploie cette expression, parce que je sais que je ne me trompe pas, j'ai quand même mes petites fiches. En fait, c'est lui aussi qui a fait le design du blog qui est super classe, même les miniatures et tout ça. Donc ça s'est passé comment justement sa rencontre avec Benji? Et justement, ce fait de trouver aussi, le cachet visuel, parce que c'est hyper important aussi le cachet visuel de ton blog.
Bien, figure-toi que tu te trompes, hein, tu devrais revoir tes petites fiches. Non, je plaisante. En fait, Benji, c'est lui qui m'a trouvé. En fait, moi, je faisais mon blog tranquillement dans mon coin, il n'y a qu'au bout d'un moment, et puis il n'y a pas si longtemps que je me suis décidée à aller sur Twitter. Et bon, on peut dire ce qu'on veut de Twitter, mais moi, pour l'instant, j'ai juste fait des super rencontres. Et Benji est l'une d'entre elles. C'est vrai que, je sais pas, il a aimé la manière dont j'écrivais et on a commencé à sympathiser. Mais genre vraiment sympathiser, hein, c'est vraiment un coup de foudre amical. De fil en aiguille, il m'a proposé de participer à Podculture. Donc ça, c'était il y a un peu plus d'un an, je crois, hein, parce qu'on a vraiment mis du temps à peaufiner le projet. Vu que c'est un excellent graphiste et que de temps en temps, je lui demandais des choses. Enfin, je crois que le premier gros truc que je lui demandais, c'est quand même le design du logo et tout ça. Donc, il a fait le logo de Little Gamers, qui est plein de références et qui est vraiment magnifique. Et un jour qu'on discutait, je crois que c'est quand j'ai commencé à faire des vidéos juste pour m'amuser sur YouTube. Je lui avais demandé une miniature pour la vidéo. Et je crois qu'il s'est proposé pour me faire les miniatures du blog aussi. Parce que j'aurais jamais osé lui demander de faire toutes les miniatures du blog, parce que c'est un énorme boulot, en fait. Même si c'est un ami, tu vois, là, tu peux pas juste lui demander ça comme ça. Et donc, il a commencé à faire les miniatures du blog, qui sont super belles et qui, à mon avis, vendent énormément les articles. Je veux dire, je pense qu'il a vraiment sa part de responsabilité si je suis lu. Après, j'ai poussé le vice jusqu'à lui demander du coup de refaire tout le design du blog pour que tout soit cohérent, tu vois. Et c'est vrai que pour l'instant, tout le monde complimente l'identité numérique que j'ai et puis le travail de graphisme et de design sur Little Gamers. Parce que c'est vrai que non seulement c'est beau, mais en plus, Benji, en général, il comprend très bien ce que je veux. Il ne lit pas les articles en amont, du coup, il comprend tout de suite ce dont j'ai envie, puis il me connaît bien, puis... Ça marche super bien entre nous, donc tout ce que j'espère, c'est que ça va durer, en fait, cette collaboration.
Ouais, mais après, de toute façon, c'est ça qui est bien, parce que c'est vrai que tu dis, déjà, effectivement, elles sont magnifiques, mais en plus, comme tu dis, c'est que c'est pas que pour être joli, esthétique, c'est que c'est vraiment en lien avec ta manière de créer des articles. Enfin, y a vraiment une alchimie entre les deux, hein. C'est pas juste une belle image pour attirer le... Tu sais, ça peut être, tu pourrais faire un super article et une super image, mais que ce soit un peu décorrélé, que là, il y a vraiment un beau mariage entre les deux. Et je vais juste revenir pour rester sur le design et aussi sur Little Gamers. Déjà, pourquoi Little Gamers? Et si tu veux nous expliquer un petit peu ce logo qui est effectivement super joli, il y a plusieurs références, même si je connais pas forcément les jeux ou que je les ai pas fait, il y en a une ou deux que j'ai retenu. Mais justement, comment c'est venu déjà ce nom-là, puisque comme tu dis, t'as fait quand même plusieurs blogs avant, donc pourquoi si tu t'es fixé sur Little Gamers? Et ce logo qui lui aussi d'ailleurs se marie très bien avec le titre du blog.
Je t'avoue que j'attendais ces questions au tournant. J'avais très envie de parler de l'origine du logo et puis un petit peu de l'onomastique du blog et même de mon pseudo. Donc, commençons par le logo. Le logo, j'avais très envie d'un logo qui fait penser au jeu Little Nightmares que j'ai adoré et qui a bien sûr prêté son nom au blog. Hein, c'est vraiment un hommage direct. Donc, ça m'a donné l'idée du nom et par conséquent l'idée du logo, parce que j'aime beaucoup tout le design de Little Nightmares. Et malgré tout, je voulais pas que ce soit juste un logo pompé sur Little Nightmares. J'avais envie de faire une autre référence qui est Kingdom Hearts, la saga Kingdom Hearts, qui, je pense que tous ceux qui me suivent, ils savent combien j'aime cette saga. Et mon personnage préféré dedans, c'est Roxas. Alors moi, je sais plus du tout ce que j'avais proposé au début. Je crois que j'avais parlé d'une manette et tout ça. L'idée brute, Benji, il arrive à la sculpter et à te proposer quelque chose de différent, mais de mieux. Du coup, il en est venu à mixer la silhouette de Six dans Little Nightmares et de Roxas, de s'inspirer de l'œil de Little Nightmares, mais en incrustant le médaillon de Roxas. Et ça rend un tout très mixé entre les deux jeux et très cohérent et puis magnifique, tout simplement.
Ah oui, non, mais je confirme, c'est vraiment un super logo. Et même si on ne connaît pas les jeux en question, ça vraiment, ça attire l'œil. Et en fait, ça traduit totalement. Enfin, tu vas me dire que ça traduit le concept Little Gamers, parce que tu n'as pas encore expliqué pourquoi le nom, mais en tout cas, je veux dire, ça fait sens. On voit Little Gamers, on voit cette image, on dit oui, c'est ça. Même si on ne sait pas, en fait, on dit c'est ça. Et c'est ça qui est fort, en fait. Quand même les gens qui ne comprennent pas ou qui ne savent pas comprennent, c'est qu'en général, on a fait du bon boulot. Hein.
Ah ça c'est bah, je suis très contente que tu dises ça et puis merci pour lui. Et puis je pense qu'il nous écoutera de toute façon. Little Gamer, si tu veux un petit peu plus d'explications, bah déjà c'est surtout pour la référence, et puis je voulais garder Little Gamers au pluriel, surtout pour la référence, et puis je me suis dit, de toute façon, un blog, certes, moi j'écris avant tout pour moi, pour me faire plaisir, mais comme tout le monde sait, c'est aussi avant tout pour le partage, et puis du coup, on est plusieurs Little Gamers à se retrouver sur le blog, à discuter, que ce soit par le commentaire ou par des articles communs. Hein, je commence à faire des articles communs. Je ne dis pas que ça va se répéter, mais en tout cas, le premier test était vachement chouette. Puis voilà, ça s'arrête là. Puis sinon, il y a mon pseudonyme aussi. Mon pseudonyme sur Internet, c'est F Delo. Et ça, par contre, c'est vraiment un pseudonyme que j'utilise depuis quasiment toujours. Et je ne sais pas si tu as la référence là cette fois-ci.
Alors, je sais, non, là, franchement, je sais pas pourquoi je pense que c'est lié à de la littérature, je sais pas, je dirais littérature peut-être du 19e, mais je dis, ça, c'est vraiment comme ça, c'est l'écriture, je me dis peut-être littérature du 19e, un truc comme ça fait penser à ces personnages, tu sais, qui cherchent un peu à ce romantique, la vengeance, tu sais, genre à Monte Cristo, tout ça, mais peut-être que ça n'a rien à voir, c'est juste que ça me fait penser à ça comme ça, mais je sais pas.
Non, franchement, ton instinct, il est ouf là, parce qu'en fait, c'est la manière dont le fantôme de l'opéra signe ses lettres dans le roman. Je crois pas que ce soit mentionné dans les films ou dans les adaptations. Et dans le roman, il signe F. Delo. Et vu que c'est un personnage, c'est un des nombreux personnages qui m'ont forgé le fantôme de l'opéra. Et en plus, F. Delo, c'est un anagramme de Flo, donc je me suis dit, bon, bah, c'est parfait, c'est pour moi ça. Ça tape pas à l'œil en fait, c'est pas une évidence, donc je l'aime d'autant plus ce pseudo-là.
Mais c'est vrai qu'il fait très littéraire, mais tu sais, dans le, je sais pas, ça fait vraiment, ouais, ça fait un peu, ça fait romanesque, ça fait très romanesque en fait. Même dans le visuel, je trouve, F de Loup, c'est classe. Franchement, c'est mieux que Donny Jeep.
Ah non, mais moi j'aime beaucoup Donny Jeep.
non, non, mais franchement, tu vois, tu fais bien de dire, parce qu'effectivement, ben, en tout cas, on le saura, donc Fantôme de l'Opéra, donc pour le coup, on s'écarte un peu du jeu vidéo, mais comme tu parlais des personnages, et on va s'écarter sans s'écarter, parce que les personnages, c'est quelque chose qui revient quand même souvent dans les articles que tu fais autour du jeu vidéo. Pour rentrer justement, là, on était dans le côté un peu visuel, vitrine, on va rentrer un petit peu maintenant à l'intérieur de la boutique, hein, même si tu n'as rien à vendre, hein, tu as juste à transmettre, comme tu dis. T'as différentes catégories, alors comment justement t'as piloté ces catégories-là, et puis on va en parler un petit peu parce que je trouve que c'est quand même très intéressant, et il y a un aspect très... C'est toujours pareil, en fait, il y a un aspect analytique, mais en même temps très vivant aussi, parce que faire de l'analytique, ça veut pas forcément dire faire quelque chose de chiant et de synthétique, quoi.
Quelque chose de scolaire, tu veux dire?
Ou de scolaire, mais scolaire, en fait, c'est pareil, c'est un terme qui est très dévoyé, parce qu'on pense que tout ce qui vient de l'école, c'est scolaire, alors que pas forcément, hein. C'est toujours pareil, en fait, il y a le mot tel qu'il est à la base, hein, et après, comment, en fait, on va l'utiliser, tu vois, c'est ce côté scolaire, maintenant, c'est comme si c'était péjoratif que ce soit, quelque chose soit scolaire, alors qu'à la base, c'était pas forcément ça, c'est comme les gens, quand on entend progressisme, maintenant, c'est utilisé comme péjoratif, alors qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir faire tout progrès pour que ce soit mieux, tu vois, c'est...
Je vois ce que tu veux dire. Après, scolaire... Pour moi, c'est même pour moi en tant que prof, c'est péjoratif. Moi-même, je dis à mes élèves, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de scolaire là, parce que des fois, je leur dis dans une écriture d'invention, ne me commence pas ton écriture d'invention en disant, voilà, le personnage que je vais présenter, ben non, rentre directement dans le vif du sujet, sois un auteur, tu vois. Donc c'est vrai que scolaire, c'est un mot souvent péjoratif. Tu as raison.
De toute façon, c'est comme pour tout, les mots, c'est la façon dont on les utilise. Eux, ils ont rien demandé, ils sont là, les mots. Et puis nous, on vient, on les prend, et puis on les habille comme on veut, à notre sauce. Et puis eux, ils y peuvent rien.
Ouais, c'est ça.
Donc bon, pour en revenir quand même, parce que c'est vrai que là, on est en train. En plus, je vois que tu es un peu comme moi. Je pense qu'on aime tous les deux la digression, donc sinon, on est parti pour un marathon.
En même temps, j'aime Victor Hugo, c'est pour ça.
Ah ben voilà, exactement. Les gens avaient leurs grandes plumes et tout. Mais pour en revenir, on va pas parler de l'auteur des précieuses ridicules. C'est le mec qui a aucune culture. Et donc oui, pour en revenir quand même donc à Little Gamers, comment t'as piloté justement les différentes catégories, qui sont chacune des catégories qui sont assez fortes, qui sont justement vraiment intéressantes, comme je disais. Et même au niveau des noms, t'as donné des noms comme Grimoire, Pérégrination, c'est ça. À chaque fois, on a une sorte de cheminement. Il y a un côté très littéraire, c'est une volonté que t'avais quand même de rester sur un côté littéraire, justement créatif, quoi.
En fait, je vais partir du commencement. Little Gamers, je ne voulais pas faire des tests ou des articles conventionnels. Attention, je n'ai rien contre les tests, les critiques et tout ça. J'en ai moi-même fait. Et justement, je commençais à me lasser d'en faire. Parce qu'au bout d'un moment, tu tournes en rond, tu vas pas forcément dire mieux que les autres. Il y a des gens qui sont plus légitimes que moi, tu vois. Et je me suis dit, le but d'un blog, c'est aussi de se démarquer, tu vois, de pas répéter ce que tout le monde dit. Alors, je vais combiner deux choses que j'aime, la recherche et le jeu vidéo. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai fait 2 années de recherche en littérature. J'ai écrit 2 mémoires sur Victor Hugo. Donc, j'utilise beaucoup tout ce que j'ai fait au cours de ces 2 années, mais je l'applique au jeu vidéo. Les catégories, j'ai essayé de trouver des noms sympas qui font pas trop téléphoner. Analogie, c'est quand je parle de plusieurs jeux que je mets en relation. Essai, c'est quand je réfléchis au sujet d'un jeu. Parce que comme je l'ai dit, je fais pas des tests, j'essaye de trouver des thématiques ou des analyses intéressantes. Et puis après, Grimoire, Pérégrination, pardon, et puis Symphonie, c'est tout simplement, je suis allé chercher des noms un petit peu stylés plutôt que de dire livre, sortie, musique. Voilà, c'est un petit peu pompeux, c'est tout. Les catégories, c'était pas le plus important pour moi, en toute honnêteté.
Oui, c'est plus ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, que leur nom, ce que je comprends. Et d'ailleurs, on va parler un peu plus, justement, de ce qu'il y a à l'intérieur. Tu parlais, justement, des analogies. C'est quelque chose que je trouvais super intéressant, parce que, comme tu dis, tu fais, en fait, dialoguer des jeux entre eux, mais pas pour faire une simple comparaison, c'est vraiment pour aller chercher à chaque fois des thématiques et, en fait, les faire converser ensemble. Donc, tu as fait récemment sur les jeux indépendants. La plus récente que j'avais trouvée qui était très intéressante, c'était tout l'aspect aussi de comment, en fait, le jeu nous fait jouer des mentors. Tu avais pris God of War, Life is Strange 2, The Walking Dead, donc des jeux qui, de prime abord, semblent ne pas forcément tomber dans les mêmes catégories, mais qui, en fait, dialoguent totalement entre eux. Comment ça se passe, en fait? C'est des choses qui te viennent comme ça en jouant directement, ou des fois, tu pars même avec une idée de sujet, et ensuite, tu vas chercher les jeux qui correspondraient. C'est comment tu goupilles tout ça?
Alors ça, c'est une question très intéressante, donc je vais te dire ma démarche. En fait, je joue aux jeux dont j'ai envie, et après, je ne me force à rien. Ma seule obligation, et encore, c'est parce que j'en ai envie, c'est de parler de tous les jeux que je fais sur le blog, parce que le blog est avant tout mon carnet de bord pour pas oublier les jeux auxquels je joue. Et ça me peinerait de faire un jeu puis de pas du tout en parler, parce que je pense qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à dire sur un jeu. Donc, en général, quand je joue à un jeu, je vais très vite comprendre si je vais pouvoir faire un essai, c'est-à-dire une analyse assez classique sur l'histoire du jeu. Pour Life is Strange 2, c'était évident parce que t'avais tellement de thématiques, tellement de choses à farfouiller que c'était évident. Et il y a des jeux où c'est pas du tout évident. Et ça veut pas dire que je les ai pas aimés. Par exemple, le dernier pour lequel c'était pas évident, c'était Star Wars Jedi Fallen Order. Je me disais, mais de quoi je vais parler? Je me suis dit, bah j'ai qu'à parler des références à l'univers Star Wars. Mais même si je suis fan de Star Wars, je suis pas du tout légitime pour ça parce que je m'y connais pas assez, ou alors ça m'aurait demandé trop de boulot, tu vois. Du coup, là, j'ai trouvé, et ça va plutôt être une mise en relation avec d'autres jeux qui n'ont rien à voir, mais c'est pas une contrainte, c'est plutôt un défi pour moi, plutôt rigolo, de me dire comment je vais pouvoir parler de ce jeu, bah, si j'en parle avec d'autres jeux, sous quel angle. Et puis des fois, c'est des jeux qui n'ont rien à voir, donc c'est encore plus rigolo. Et puis, si malgré tout, l'article reste cohérent et puis intéressant, c'est tout ce que je demande, en fait.
Ouais, d'ailleurs, ça fait 2 fois que tu dis « ouais, je me sens pas légitime ». Donc, ça t'arrive quand même assez souvent d'être frappé par le fameux syndrome qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose qui peut vraiment te bloquer, ou t'arrives quand même à le surpasser, ou comme tu dis, trouver des biais qui t'amènent à regarder différemment, parce qu'en fait, c'est toujours pareil pour toute chose. C'est pas qu'on peut pas en parler, c'est tout dépend de l'angle d'attaque par lequel, en fait, on l'envisage.
Quand je dis que je suis pas légitime pour quelque chose, ça veut dire que certains le feront mieux que moi. Mais c'est pas parce que j'ai le syndrome de l'imposteur ou parce que j'ai un complexe d'infériorité. J'ai pas un complexe de supériorité non plus, mais je suis pas quelqu'un de très timide ou de particulièrement complexé. Ce qu'il y a, c'est que je préfère laisser à d'autres ce que d'autres feront mieux. je connais mes limites, en fait. Je vais pas me dire, tiens, je vais faire des tests, je vais parler de Star Wars comme une pro. Ou alors, je sais que je vais vouloir le faire à fond, donc je vais faire beaucoup de recherches sur Star Wars, tu vois. Et puis, malgré tout, je sais que je peux commettre des erreurs parce que, voilà, j'ai un timing serré, 2 semaines, je vais pas avoir la folie des grandeurs. Du coup, je fais des choses que je maîtrise et encore, c'est pas non plus, j'ai jamais la prétention de faire des articles exhaustifs ou professionnels. Par exemple, quand je parlais de la relation entre Ace Attorney et puis la vraie loi juridique. Alors voilà, j'ai fait des recherches et tout, mais je suis pas du tout calée dans le sujet. Et puis des fois, il y a des erreurs comme signal par commentaire. Et puis, soit je mets à jour, soit c'est pas bien grave. Et je sais même plus la question. En fait, je pars encore dans ma, je pars encore dans mon délire là.
Non, mais je parlais justement par rapport à la légitimité, et c'est ce que tu disais. Et d'ailleurs, pour rebondir aussi sur les recherches, parce que tu dis des fois, il faut faire beaucoup de recherches. Donc, on le sent dans tes articles qu'il y a des recherches. Alors, faire trop de recherches, c'est vrai que ça peut prendre beaucoup de temps, mais en même temps, ça permet aussi de découvrir des choses intéressantes. Vu que tu as fait des mémoires et tout ça, je suppose que c'est un travail déjà que tu as une certaine méthodologie parce que tu l'as appris quand tu as fait tes thèses. Et donc c'est quelque chose que tu aimes aussi, ce côté un peu de chercheur, de recherche justement, et de pouvoir, un, le faire personnellement, et après le traduire aussi pour aussi en faire profiter les lecteurs et les lectrices. Parce que comme tu l'as dit, quand on tient un blog, c'est pour soi, mais en même temps, on a envie de partager. Si on partage à un mur, c'est pas très nourrissant non plus, quoi.
C'est vrai qu'au risque de passer pour quelqu'un de bizarre, j'adore faire des recherches, j'adore faire des plans, j'adore traduire. Bon, en même temps, c'est normal, hein, je suis prof. Et du coup, vulgariser les choses, transmettre les choses, ça m'amuse beaucoup. Et malgré tout, je veux que ça reste du loisir. D'une part pour moi, et d'une part pour le lecteur. Je ne veux pas que l'article devienne justement une vraie thèse, qui devienne trop protocolaire. Plutôt que de dire scolaire, je veux dire protocolaire. Que le lecteur ne prenne plus de plaisir à le lire. Et pour que ça reste personnel et pas juste un amas de recherches, c'est ce que j'avais fait, me semble-t-il, pour Final Fantasy VIII. J'avais noté mes propres ressentis, mes propres analyses du jeu, avant de lire le livre auteur d'édition, me semble-t-il, sur Final Fantasy VIII. Et puis je voyais si je m'étais trompée ou pas, je voyais ce que ça pouvait rajouter, et je faisais le mix de tout pour que ça reste quand même assez personnel.
Oui, voilà, oui, il faut pas que ça, que le côté, on va dire, factuel étouffe ta vision et ta perception, puisque ce que tu transmets, c'est à la fois des infos, mais surtout, c'est tes sensations, c'est ton avis, c'est ta perception. Donc, forcément, effectivement, je comprends ça, mais c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on va retrouver, donc, dans les analogies, les essais, un peu partout. Donc, comme t'as dit, les essais, c'est plus sur un jeu en particulier. Et donc, c'est un truc que t'appliques à la musique, puisque c'est ce que t'appelles les symphonies. Et aussi Grimoire, donc ça, pour l'instant, t'as fait que sur le comics The Witcher. Ça, c'est un truc que tu vas continuer à bien développer. Donc Grimoire, c'est tu parles en fait de ton avis sur des livres qui sont sur le jeu vidéo. Tu vas rester sur le côté fiction, jeu vidéo, ou tu vas faire aussi sur les livres comme Sœur d'édition, donc il y a un éditeur toulousain, très bon éditeur toulousain de livres sur le jeu vidéo.
Concernant cette catégorie Grimoire, il n'est pas exclu qu'elle soit plus développée à l'avenir, mais c'est vrai que pour l'instant, pour tout te dire, cet article sur le comics The Witcher, c'est parce que j'avais rien d'autre sous la main. Je me suis dit, de quoi je peux parler? Et si je veux rester dans les temps, faire un article toutes les 2 semaines, ben, j'ai qu'à lire ce comics et puis en faire une petite review. Donc c'est vrai que c'était un petit peu plus par dépit, entre guillemets, parce que j'ai quand même pris plaisir à le faire. Et il n'est pas exclu qu'à l'avenir, je parle d'un livre d'analyse ou d'un produit dérivé comme les comics. Surtout que j'en ai plein la bibliothèque et que j'adore lire ça. Ce qu'il y a, c'est que les livres d'analyse, eh ben souvent, en fait, ils vont nourrir d'autres articles. Du coup, est-ce qu'après, c'est utile d'en parler dans un article à part entière? Parce que j'aurais totalement pu faire une review de la légende Final Fantasy VIII, ou je sais plus son nom. Et c'est pareil pour le monde de The Witcher, mais en fait, ils ont directement servi pour les articles du bestiaire et puis de l'analyse. Donc finalement, je me dis, c'est mieux, tu vois, à quel point le livre a été utile, bien mieux de cette manière.
Effectivement, parce que si tu faisais ça, après tu retomberais sur l'aspect critique que t'as pas forcément envie de faire, en fait, dans ton blog.
Disons que je garde ça sous la main si vraiment un jour je suis en panne de sujet un jeudi, tu vois.
Au niveau justement donc des symphonies, donc tu avais fait le premier, c'était un concert, tu parlais de concert je crois de Kingdom Hearts, et récemment tu as fait donc autour des OST, donc c'est déjà les OST, c'est un truc de jeu vidéo que tu aimes beaucoup, enfin je sais que tu en parles sur Twitter, et donc tu as fait un article qui était un article choral. Ça t'est venu comment cette idée en fait de vouloir faire quelque chose de choral, puisque c'était la première fois que tu faisais un article qui faisait intervenir d'autres auteurs sur le blog.
Disons que la musique, c'est tellement quelque chose d'universel et je voulais tellement traiter le sujet de manière générique que je me suis dit, bah, comme tout un chacun, tu as quand même tes limites en termes de connaissances et de sensibilité là-dedans. Donc pourquoi pas partager ça avec des copains, avec des amis, avec des gens dont tu apprécies le travail. Comme ça, non seulement tu as une plus grande palette de jeux, je veux dire, certains d'entre vous êtes allés chercher des jeux que je connaissais pas du tout, du genre Metal Gear Solid et tout ça. Et en même temps, ça va construire ton plan, en fait. D'avoir les avis des autres, ça va te faire penser à plein de trucs auxquels tu n'aurais peut-être pas songé toute seule. Et puis c'est vrai, je trouve que ce que vous m'avez dit, c'est juste fou dans cet article. Et j'ai réuni toutes les paroles, j'ai essayé de les aligner sur un fil rouge. Mais malgré tout, c'est vous qui m'avez apporté des tas d'arguments qui montrent que oui, la musique du jeu vidéo, et nous on s'était focalisé sur les thèmes de personnages, ben c'est juste universel et puis indescriptible, ça t'apporte vraiment énormément, tant dans le gameplay, dans la narration, que en fait, dans ton vécu, ça te marque bien plus que les images, en fait.
Oui, c'est un dialogue. Mais d'ailleurs, justement, en parlant de dialogue, c'est ce que tu as réussi à faire. Alors, quand tu dis « vous », c'est parce qu'en fait, effectivement, j'avais participé à cet article-là avec plein d'autres personnes. Benjamin, on en a parlé. Tu as réussi, justement, à mettre toutes ces voix ensemble. Tu as fait le chef d'orchestre et en mettant aussi ta propre sensibilité. Donc, ça a dû demander un boulot vraiment de découpage et de réarrangement, de réorchestration, on va dire, pour justement faire sonner tout le monde ensemble sans qu'il y ait de fausses notes. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Ça a été quand même stimulant. Tu as passé du temps, je suppose, là-dessus quand même.
C'était nouveau, plus ou moins, parce que finalement, comme toujours, je me sers de tout ce que j'ai appris quand j'écrivais, quand je faisais de la recherche en lettres. C'était stimulant, oui, énormément. Déjà parce que ça m'amuse, moi, de faire des découpages, de faire des plans, puis d'écrire pendant des heures. Et puis, c'était surtout très, très émouvant, finalement. Vous m'avez tous confié un souvenir, vous m'avez tous confié un sentiment. Même si je découvrais plus ou moins le jeu, je l'ai totalement perçu et ressenti, donc... En fait, j'ai atteint de manière inespérée le but que je m'étais fixé, de montrer que la musique, ça peut réunir les gens, ça peut faire ressentir des émotions communes, même si t'as pas forcément la même expérience. Et en plus, vous êtes des coquins parce que vous m'avez tous écrit, bon, j'exagère, hein, quand je dis un pavé, mais vous avez tous été assez verbeux. Et c'était pas plus mal parce que j'avais plein de matière et puis l'article est long, mais il a quand même été pas mal lu et pas mal apprécié, en fait.
Mais justement, pour en revenir à ça, c'est une question aussi que je voulais te poser, parce que souvent, c'est quelque chose qui peut rentrer en ligne de compte, c'est la fameuse longueur des articles, c'est est-ce que si je fais pas trop long, est-ce que les gens vont me lire ou pas? Tu te fixes des limites là-dessus, ou tu restes quand même concentré sur le sujet et la mise en valeur du sujet ou des sujets, s'il y a plusieurs jeux, pour les mettre de meilleur possible en valeur, peu importe la durée? C'est quoi ton approche par rapport à ça, en fait?
Alors moi, je suis quelqu'un d'assez concis. Je préfère dire beaucoup d'informations en peu de phrases. Est-ce que c'est long par rapport à ce qui se fait d'habitude? Ça, je ne sais pas. Je lis beaucoup de blogs, mais je m'amuse pas trop à comparer la taille, sans mauvais jeu de mots. En moyenne, un article, ça va faire 3000 mots. Après, je sais pas si c'est long ou pas. J'ai des articles plus concis que d'autres. De toute façon, je ne me fixe pas de limite. Si l'article a besoin d'être long, eh ben, il sera long. Et puis, les gens lisent... ou ne lisent pas, lisent une partie, peu importe. Je fais confiance aux gens qui lisent mon blog et qui font vivre mon blog, finalement. Je sais que ce sont... qu'ils vont lire, quelle que soit la longueur, pourvu que je les ai intéressés. Et cet article sur les thèmes musicaux, il l'a bien démontré, de toute manière.
Little Gamers, donc tu l'as lancé il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Donc au niveau des... ça rentre dans les statistiques, parce que moi personnellement, c'est vrai que c'est pas moi le truc qui m'intéresse le plus, mais tu vas me dire si toi peut-être ça t'intéresse. T'as quand même pas mal de personnes qui commencent quand même à venir, à lire. C'est quelque chose que tu regardes vraiment ou...
Ben, figure-toi qu'en fait, je m'en fichais royalement des statistiques et tout ça avant Little Gamers. C'est vrai que là, je me suis prêté au jeu, je surveillais un petit peu. Mais comme je l'ai dit, bon, j'écris avant tout sur moi, donc ça, on va dire que c'est le bonus à chaque fois. Et c'est vrai que je promeus, je sais pas si je l'ai correctement conjugué, je promeus pas mal le blog et donc c'est pas un hasard s'il est plus lu que ce que j'ai pu faire précédemment. Sans compter que, comme je l'ai dit, je suis très reconnaissante envers Benji, toi, tous les gens qui m'aident à partager mon travail. C'est vrai que le blog, bon, il est pas non plus hyper populaire, je veux dire, ça reste timide et modeste comparé à de gros blogs. Mais c'est vrai que moi, ça me suffit en fait d'avoir un cercle de lecteurs, d'amis qui me font des retours. Voilà, moi, ça me suffit, je suis contente.
Oui, puis après, de toute façon, c'est toujours mieux d'avoir, comme tu dis, peut-être moins de monde, mais quelque chose qui soit vraiment de l'interaction et de l'échange, plutôt que beaucoup de gens qui passent, mais tu ne sais pas leur avis ni rien. Enfin, c'est moins nourrissant.
Oui, c'est ça. Je préfère avoir quelques lecteurs fidèles, entre guillemets, mais en tout cas qui sont bienveillants, qui te donnent vraiment leur avis, plutôt que d'en avoir plus qui vont pas dire grand-chose, soit au contraire, bah, commencer à troller ou dire n'importe quoi, tu vois.
Ouais, c'est la rançon de la gloire, si c'est vraiment une belle rançon ou pas, je sais pas. Après, comme tu dis, tu as débarqué aussi sur Twitter assez récemment et c'est quelque chose aussi que tu prends plaisir parce que promouvoir, c'est vrai que c'est un exercice que des fois on n'a pas forcément envie de faire. C'est vrai qu'à titre personnel, moi c'est un truc que je préfère parler limite, mettre en valeur les autres, que en fait faire de la com sur les trucs que je fais. Est-ce que toi c'est pareil ou c'est un truc que tu as dû te forcer justement?
J'essaie de bien doser, de pas trop me la raconter, de pas trop insister et en même temps de faire ce qu'il faut pour que l'article soit lu. En général, je poste l'article sur les réseaux quand je viens de le publier, puis je fais un rappel environ une semaine plus tard, et puis c'est tout en fait. Je vais pas non plus spammer les gens et leur dire bah, allez, va lire mon article, va lire mon article.
Ouais, c'est comme les gens qui vont sur les blogs des autres en disant ouais, super article. Et puis, tu sais, ils mettent l'adresse du leur et allez, va voir le mien alors qu'ils ont même pas lu l'article, tu sais, c'est le truc genre lâche un com, tu vois.
Je préfère m'intéresser aux autres et même si c'est pas forcément par intérêt, je sais qu'en général, quand tu t'intéresses aux autres, eh ben on te le rend bien. Donc voilà, c'est plutôt ça ma philosophie.
Pour quitter un petit peu Little Gamers, on a parlé un petit peu en début d'émission de pod culture, donc cette fois-ci ça va être un aspect, on va dire, audio. Pod culture, ça s'est lancé comment? Tu m'as dit que ça, la genèse a pris quand même un peu de temps, puisque le premier épisode est débarqué en octobre l'année dernière, et toi tu me dis que ça avait quand même été préparé bien en amont. Comment s'est passé un peu ce contact et comment vous êtes cinq, il me semble, à intervenir, donc un peu comment ça se goupille tout ça?
Alors j'espère que je vais pas dire de bêtises, mais me semble-t-il, Benji m'a proposé de faire un podcast vraiment en début 2019. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il a commencé à me dire ouais, on pourra parler de sujets à plusieurs, tout ça, ce sera intéressant. Moi, j'avais rien compris, c'était le gros quiproquo, je croyais qu'il parlait d'articles ou d'un blog en commun, tu vois. Comme une fois encore, je me suis fait remarquer, mais finalement j'ai compris que c'était un podcast, et puis là je me suis dit, aïe, parce que bon, moi je n'en écoutais pas, j'étais vraiment pas. J'avais pas d'a priori non plus ni de préjugés, mais j'étais pas attirée par. Bon, c'est une forme de radio, on va dire. Moi je suis plutôt quelqu'un qui écrit que quelqu'un qui parle. Du coup j'ai beaucoup hésité, surtout qu'en plus ma vie privée était un peu compliquée à ce moment-là, donc j'ai vraiment hésité pour plein de raisons. Et Benji, il a été extrêmement compréhensif, il m'a dit. Si tu ne veux pas, ben tant pis. Et puis si un jour, malgré tout, tu changes d'avis, la porte reste ouverte. Heureusement, j'ai changé d'avis avant que le projet se lance. Et donc, je suis retournée dans l'équipe. On a mis pas mal de temps à trouver comment se réunir, parce que quand tu es 4 ou 5, c'est compliqué de trouver un bon timing. Et aussi, quelle ligne de conduite adopter. On a même mis beaucoup de temps à trouver le titre, et puis c'était Jordi qui l'avait trouvé. Et finalement, on a pu se lancer pour de bon, effectivement, en octobre 2019. Et puis là, on essaye d'en faire un par mois. Et on commence à avoir trouvé les bonnes habitudes, les bons réflexes, pardon, pour essayer de faire une émission tous les mois. Et puis.
Et justement, tu disais donc que t'étais plus quelqu'un de l'écrit, et donc c'est vachement amusant parce que donc ta pod culture qui a été lancée en octobre donc 2019 pour nous, donc ben, n'hésitez pas, dans la description du podcast, vous aurez les liens pour aller écouter les émissions. D'ailleurs, à l'heure où on se parle, l'épisode 6 est dans la boîte et il devrait sortir le même jour que le podcast, c'est pas du tout fait exprès, mais c'est la coïncidence comme ça, donc vous aurez deux podcasts à écouter. Donc si vous êtes en train d'écouter Entrepreneur Too à ce moment-là, ben, vous pouvez switcher après, attendez la fin d'émission, ça sera sympa pour moi, et vous pouvez aller switcher pour écouter le nouvel épisode de Pod Culture.
Oui, j'aime être partout dans votre esprit.
Ben oui, je vois ça en fait, c'est un peu, tu es un peu la joueuse du mois de mars, et ça tombe bien parce que le mois de mars aussi, je fais un petit aparté, c'est ce qu'ils appellent le mois des joueuses, c'était une animation qui a été lancée en fait par l'asso Loisirs Numériques, qui fait quand même pas mal de bonnes choses autour du jeu vidéo en France, donc c'est l'occasion pour moi, c'est un aparté de leur faire coucou, et donc le mois des joueuses, donc n'hésitez pas à mettre des joueuses et des personnes de l'industrie féminine donc en avant, et d'ailleurs ça c'est en mars, mais n'hésitez pas à les mettre en avant toute l'année, parce qu'il y a encore besoin de visibilité. Et pour en revenir à toi, puisque c'est, pour le coup, c'est le podcast aujourd'hui, ça te met en valeur et donc visibilité pour toi, t'as aussi lancé, donc tu l'as dit, une petite chaîne YouTube. Et ce qui est intéressant, je t'avais fait la réflexion, il me semble, sur Twitter.
Ouais, c'était une très bonne réflexion.
C'est que, bah, oui, merci. À force de me dire de me tresser des lauriers, les gens vont penser que je paye les intervenants pour qu'ils me disent que je pose des bonnes questions pertinentes et tout. Mais non, mais en fait, ce qui était intéressant, c'est que c'est vraiment un complément au blog. Et là, tu fais pas d'analytique ni rien. C'est plus vraiment un montage image avec une musique et c'est plus sensitif. Et c'était vraiment donc une volonté de ta part de faire une sorte de respiration visuelle, audiovisuelle par rapport à l'écrit.
Alors, je ne sais plus ce qui m'a redonné envie de faire du montage, parce que quand j'étais plus jeune, je faisais du montage. En tout cas, quelque chose m'a redonné envie de faire du montage et je me suis relancée. Et c'est vraiment juste pour le plaisir, pour m'amuser. C'est vraiment pas beaucoup vu, mais je m'en fiche, c'est vraiment juste pour m'amuser. Et puis, pour l'heure, j'ai envie de rendre hommage aux jeux ou aux séries ou plus tard aux films qui m'ont touchée. Et comme je n'ai pas envie de faire d'analyse ou de discours, non seulement parce que je le fais déjà sur le blog, mais en plus parce que j'ai pas encore envie de sauter le pas de faire des vraies vidéos avec une narration et tout ça. Ben, je me suis dit, ben, je vais faire un montage en musique, et puis ça peut être tout autant parlant, si ce n'est plus. Et si certains l'ont compris, ben, ça c'est fabuleux.
Bon, ben c'est cool. En tout cas, effectivement, c'est une sorte de récréation, respiration, et qui laisse parler l'œuvre en elle-même sans qu'on ait besoin de parler d'elle, parce que souvent, en général, c'est vrai que une belle œuvre, en général, parle très bien d'elle-même tout seule. Et après, nous, on donne nos avis.
C'est ça.
Dernière petite chose, avant qu'on glisse vers le troisième partie de l'émission, mais c'est tout récent, c'est tout neuf. J'ai vu que tu étais membre du PSTHC, donc c'est le PlayStation Trophy Hunter Community. Donc, en fait, c'est les chasseurs de trophées. Donc ça, en fait, tu parlais de ton côté, on va dire, méticuleux, et puis ton côté aussi d'aimer d'être dans le challenge. Donc ça, les chasses aux trophées sur les jeux vidéo, c'est un truc qui te passionne vraiment?
Oui. Et encore, je suis vraiment une petite joueuse comparée aux chasseurs de trophées qui font ça depuis longtemps, qui sont aguerris. Moi, j'en ai quoi là ? J'en ai même pas 35 encore. Ça fait vraiment pas très longtemps que je fais ça sérieusement. Mais c'est vrai que tous ceux qui chassent les trophées ne me contrediront pas. C'est un petit peu addictif, en fait. Tu as envie de terminer le jeu à 100%. C'est pas juste pour te vanter, tu vois. C'est parce que déjà, tu as l'impression d'avoir un petit peu visité tout ce que les développeurs ont prévu. Il y a vraiment des jeux où j'ai gagné à les faire à 100%, hein. J'ai vu toutes les quêtes annexes, j'ai découvert des petits trucs sympas, tout ça. Bon, je généralise, mais il y a des jeux où je fais l'histoire, voilà, c'est chouette. Et finalement, j'aime encore plus quand l'histoire est finie, que je dois vagabonder dans le monde ou dans les mondes pour farfouiller et puis collecter les trophées qui me manquent. C'est toujours des petits challenges sympas en plus. Ceci étant dit, j'ai mes limites. Si je sais que les trophées vont pas m'amuser du tout ou vont être trop exigeants, c'est-à-dire... tu dois refaire le jeu tout de suite, mais dans un mode de difficulté supérieur. Bon, bah, c'est pas grave si j'ai pas le 100%, je vais faire de mon mieux, et puis voilà. Et par rapport à PSTHC, voilà, là aussi, j'ai encore eu beaucoup de chance. Il y a beaucoup de choses qui se précipitent en ce moment. Ça vient tout juste de commencer, mais je suis sûr que ça va être une très belle expérience.
Et donc, on va glisser vers la troisième partie de l'émission, donc la fameuse LAN party. Comme je dis, le concept est très simple. C'est tu organises une LAN party, qui c'est que tu invites? Alors, ça peut être des personnages de jeux vidéo et ou des personnes de l'industrie du jeu vidéo. Donc, qui c'est que tu m'as choisi, que tu as envie de faire venir pour jouer, mais aussi pour discuter avec?
Alors, moi, je suis quelqu'un de très chafouin. Et en plus, j'aime des personnages assez, on va dire, qui le sont encore plus. Donc déjà, pour que ce soit un petit peu explosif, j'inviterai Gunther de Murray de The Witcher 3 et Ardyn de Final Fantasy XV. Comme ça, déjà, à nous trois, on pourrait un petit peu faire des plans pour contrôler le monde. Ensuite, un personnage beaucoup plus ambigu, mais qui est très très fort, c'est Kenny dans The Walking Dead, la série de Telltale. J'avais vraiment eu un coup de cœur pour ce personnage parce que il est dans les extrêmes de chaud et de froid. Tu peux choisir en fait de son destin directement. Comme je ne suis pas non plus un monstre, j'inviterai aussi Rost de Horizon Zero Dawn, tout simplement parce que moi j'adore les personnages qui sont en fait le papa que tout le monde aimerait avoir, et Rost est de ces personnages. Et pour finir, vu que ça risque quand même d'être un petit peu animé, si j'ai besoin de silence et de calme, et ben, mon dernier invité, ce sera Kratos.
Ah oui, donc effectivement, tu nous as fait une LAN party qui peut vraiment partir à, comme on dit, les jeunes. Enfin, je ne sais même pas si c'est jeunes, je vais dire en sucette, mais je ne sais même pas si jeunes, pareil, bah, c'est de vieux jeunes.
Non, c'est...
C'est un truc de vieux jeunes.
C'est un petit peu désuet.
Exactement. Ah ben, en même temps, on fait une LAN party, tu sais, les LAN party maintenant, je ne sais plus si ça organise trop, en tout cas, c'est le côté rétro gaming. Mais donc justement, j'ai envie quand même de rebondir, parce que là, tu balances des petits noms comme ça, donc sans non plus faire une description de personnage. Gonté du Maurier, c'est Gunther Odim, c'est ça, parce que moi, je suis team VO, tu sais, donc... En tout cas, c'est un super personnage qui est effectivement très fourbe. Je crois qu'on en avait parlé à Podculture, vous avez fait récemment un épisode spécial antagoniste-protagoniste, et en termes d'antagoniste, c'est probablement un des meilleurs antagonistes du jeu vidéo. Enfin, pour moi, je pense que tu ne me contrediras pas.
Ah non, non.
Et donc oui, Kratos, oui, effectivement, c'est t'as un côté... Et là, c'est pareil, c'est le Kratos de God of War 3, 4 plutôt, c'est-à-dire ce côté, comme tu disais, un peu le papa... Alors, je sais pas si c'est le papa que tout le monde aimerait avoir, mais ce côté un peu...
Pour Kratos, un petit peu moins que pour Rust, hein, quand même. En tout cas, oui, même si, comme on le disait, bon, j'ai ce côté un petit peu romanesque, un petit peu littéraire, tout ça, j'ai aussi beaucoup d'affection pour les personnages qui sont bruts de décoffrage. Ça s'est vu dans ma liste de choix. Et puis Kratos, j'ai fait que le 3 de God of War et puis le dernier. Et puis bon, moi j'aime bien les personnages un petit peu brutaux. Et en même temps, dans le dernier, il s'est découvert une sensibilité. J'ai beaucoup aimé le sous-texte du dernier God of War. Quand j'aime des personnages de méchants ou qui peuvent être problématiques, c'est pas parce que je les idéalise ou que je les prends en exemple, c'est juste parce que j'aime le côté ambivalent, le côté ambigu. Par exemple, pour Kratos, j'aime beaucoup son côté taiseux. Il ressemble beaucoup plus de choses qu'il ne le montre. Et puis, il y a une réplique de God of War qui m'avait vraiment marqué et puis que j'aime bien... appliqué, en fait, c'est... Il dit à son fils, ne sois pas désolé, sois meilleur. Alors, de prime abord, cette réplique, elle est un petit peu brute de décoffage. Hein. Tu te dis, bah quoi, j'ai pas droit à l'erreur, en fait. Mais en fait, moi, je vois pas ça comme ça. C'est plutôt... Ça sert à rien d'être trop paralysé par les remords et puis de constamment s'excuser si c'est hypocrite. Il vaut mieux essayer de se surpasser puis agir plutôt que de parler. Et c'est ça qui me plaît beaucoup chez Kratos, en fait.
Ouais, en fait, ça revient à ce que tu disais quand on parlait de la musique des personnages. De toute façon, après, tout est une question aussi de... Il y a le perso tel qu'il est et tel qu'il est pensé par leur créateur, mais en même temps, il y a la perception suivant nos propres expériences et suivant comment ils dialoguent avec nous. Donc c'est vrai qu'il y a des phrases comme ça qui peuvent nous parler tout simplement parce que c'est... Parce que ça correspond à notre ressenti ou parce qu'à l'instant T, il y a un jeu qui va te plaire ou un personnage qui va te plaire parce que tu es dans la disposition... C'est une question de timing, tout ça aussi, en fait. Hein. Il y a des personnages qui vont te plaire tout le temps et des personnages qui vont te plaire à un moment donné parce que t'es à un moment de ta vie. Enfin, je sais pas si ça t'est arrivé pour des personnages comme ça où tu peux tomber amoureux d'un personnage et si tu refais le jeu, je sais pas, 3 ans plus tard, finalement, t'as plus de rapport avec ce personnage-là et vice-versa. Et puis, il y a ceux qu'on aime d'amour toute la vie, évidemment.
Bien sûr. Moi, je suis quelqu'un qui considère que le personnage, c'est un des points les plus importants d'une œuvre. C'est pour ça que j'aime bien m'identifier, entre guillemets, à un personnage. J'utilise des grosses guillemets parce que je pense que c'est quand même très important de garder un recul entre soi et l'art. Et donc, une œuvre, elle va vraiment sortir du lot pour moi quand il y a un personnage qui a réussi à me parler ou à avoir un écho, à résonner en moi. Et il s'avère que c'est souvent des personnages, comme je l'ai dit, qui peuvent être problématiques, mais c'est dur à dire, hein. C'est comme tu dis, des fois ça renvoie à des choses, soit sur le moment, et puis ça concerne pas l'entièreté du personnage, ça concerne juste un point, et puis voilà. Puis des fois, effectivement, il y a des personnages qui, sans que tu comprennes pourquoi, ils vont te forger, et puis ils vont toujours te marquer. Par exemple, pour en revenir à mon pseudo, le fantôme de l'opéra, a priori, j'ai pas grand-chose en commun avec lui, mais il m'avait vraiment marqué, et puis, il y a beaucoup de choses qu'il m'a enseigné. Hein. C'est un des personnages qui a entretenu mon goût pour la littérature et pour les comédies musicales, tout ça. Il y a vraiment des personnages qui sont fondateurs pour moi, en fait.
Je comprends. Puis comme tu dis, c'est pas forcément... Alors, ça peut être un personnage en totalité, puis des fois, ça peut être juste des parties, des fragments qui... Comme nous, on est fait de plein de fragments. Le but du jeu, c'est justement que ces fragments se marient bien ensemble. Il ne faut pas justement renier certains. Donc, quand tu dis, des fois, il y a des personnages qui peuvent sembler ambivalents, voire, on va dire, les méchants ou monstrueux, entre guillemets.
Et c'est compliqué, je trouve, surtout au jour d'aujourd'hui. Désolé pour le pléonasme. C'est compliqué d'aimer des méchants. Je veux dire, si tu regardes, moi j'adore Frollo dans Notre-Dame de Paris, et c'est vrai que le personnage, il est imbuvable, je veux dire, compte tenu de tout ce qu'il fait, il est imbuvable. Et pourtant, ça reste un personnage de fiction qui raconte quelque chose et qui m'a énormément apporté, enfin l'œuvre en tout cas m'a énormément apporté. Et puis c'est pas pour rien, je pense, il y a des tas de gens qui aiment les personnages méchants, entre guillemets. Il y a aussi quelque chose de très cathartique, en fait.
Et puis je pense que ça permet aussi soi-même d'accepter nos parts d'ombre. Alors je sais plus qui c'est qui parlait de l'ombre.
Tu parles de... si tu regardes le fond de l'abysse, l'abysse te regarde en retour, c'est ça ?
Ah, ça c'était Nietzsche. Mais en même temps, il y a tout un concept de ce qu'on appelle de l'ombre et tout ça. Et c'est pareil, pour pouvoir accepter les personnages, même soi-même, on a différentes parts. Et ces personnages-là dialoguent avec nos parts qu'on veut pas, peut-être pas exposer, mais qui font partie de nous. Et dialoguer avec eux, c'est aussi une manière d'accepter ces parts-là. Et ce qui fait qu'on est des êtres entiers et qu'on. Voilà, c'est une création, mais en même temps, ces personnages sont créés par des êtres humains aussi. On en revient toujours à l'humain dans tout ce qu'il est, que ce soit en bon ou en mauvais, et ensuite chacun passe sa propre éthique et sa propre morale, mais il n'y a jamais de honte à aimer un personnage qui peut être considéré comme mauvais ou inhumain, enfin inhumain ça ne veut rien dire, mais monstrueux, tout ça, il n'y a pas du tout de soucis, donc moi je comprends parfaitement qu'on aime ce personnage-là, puis en plus Frollo c'est un super personnage, puis, je crois que c'est Lorinda qui en a parlé la dernière fois aussi, bah, je sais que vous les deux vous partagez cet amour pour Notre-Dame de Paris aussi, donc...
Bah d'ailleurs, c'est ça qui nous a réunis. Hein.
Ah, d'accord, je ne savais pas. Donc c'est votre amour pour Notre-Dame de Paris qui vous a réunis.
Et voilà, je pensais que c'était important de parler de, bah déjà de mon amour des personnages et puis de... Bon, débattre est d'un grand mot, mais débattre sur pourquoi on aime un personnage mauvais ou non. Et c'est vrai que bah, c'est pas forcément, parce qu'on les prend en exemple, c'est pas forcément mal. Je veux dire, ma photo de profil... Depuis quasiment le début, c'est Berlin dans la Casa des Papels, et puis lui aussi, c'est loin d'être un enfant de cœur, mais comme tu dis, on trouve des échos, puis ça veut dire quelque chose, ça raconte quelque chose, et puis c'est tout. Hein. Et c'est pour ça que j'ai choisi 5 personnages et que je ne me suis pas arrêtée sur des gens de l'industrie du jeu vidéo, même si j'aurais pu.
Ouais, t'avais vraiment envie d'en mettre en valeur les personnages, mais je te comprends tout à fait et je te rejoins là-dessus. Pour moi aussi, les personnages, c'est dans toute œuvre narrative, en fait, c'est ce que je place au-dessus de tout, au-dessus de l'histoire, au-dessus de l'univers. Mais après, c'est que ma perception des choses, mais je pense qu'elle rejoint ce que tu disais, à savoir que...
À mon âme la vie, même si l'histoire est pas terrible, mais que t'as des personnages de folie qui ont des échanges de folie, et ben ça peut devenir captivant, en fait.
Oui, voilà, que le contraire sera plus difficile à tenir. Bon, après, chacun a sa perception, mais en tout cas, je suis content que tu aies partagé la tienne. De manière générale, je suis content que tu sois venu dans l'émission pour partager ben, justement ce que tu fais, comment tu le fais. Donc ben voilà, un grand merci à toi.
Ben, le plaisir est entièrement partagé. Je suis très contente d'avoir fait ça avec toi. Sans mauvais jeu de mots, là, c'est un peu bizarre ce que je dis.
Oui, voilà, effectivement, pour une prof de français, une chercheure, tu me sors des tournures syntaxiques. Mais en même temps, non, mais c'est l'échange, c'est l'échange, la transmission, c'est la communication, ça sert aussi à ça. En tout cas, vous, chers auditeurs, auditrices, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Donc, ça sera forcément en avril, puisque je le rappelle maintenant, depuis la saison 2, l'émission est mensuelle. Donc, évidemment, si l'émission vous a plu, déjà, si vous voulez découvrir encore plus ce que fait Flo, n'hésitez pas à aller sur son blog, donc Little Gamers, aller découvrir aussi Podculture, qui est un super podcast, donc qui est mensuel lui aussi. Les infos seront donc en description du podcast. Si vous avez donc aimé l'émission, vous pouvez, si vous voulez, la partager, en discuter, venir me voir aussi sur les réseaux sociaux pour en discuter avec moi ou discuter d'autres choses. Moi, je suis toujours ouvert à l'échange. Et puis, vous abonner aussi si vous voulez savoir quand le prochain épisode sortira. Même si je vous ai spoilé la chose, parce que je vous ai dit que c'était mensuel, donc vous savez que probablement en avril, il y aura quelque chose. Merci encore une fois, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!